BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Votre avenir financier prend le pouvoir, c'est jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, il est là en fil rouge, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Une séance facile aujourd'hui sur les marchés. Votre mot du jour, Antoine?
Buy-in. Tiens, vous savez, les fameux courants un petit peu au large de la plage qui vous entraînent par le fond sans que vous vous en rendiez compte, ou en tout cas très loin. C'est un peu ce qui est en train de se passer du côté du CAC 40. On croit un été plutôt calme sur les marchés. Ben non, pas du tout. C'est tumultueux. Il faut vraiment être attentif. Le CAC 40 qui perd 1,7%. On est à 8291. On passe sous les 8300 points. Vraiment des reculs assez courts. On était en repli de plus de 2% hein, ce matin. Moins 0,37% pour le Nasdaq. Moins 1% pour le Dow Jones. L'Eurostock 50 lui perd 1,3%. Alors, deux sujets de crispation, notamment la volatilité autour des semi-conducteurs. Encore une fois, la bourse de Séoul, ça a été très compliqué ce matin. Et puis, la reprise des violences, on va dire, entre États-Unis et Iran. Alors, peut-être ponctuelle, peut-être policée, mais en tout cas, ça a fait bien, bien repartir le Brent à la hausse du côté des 77,80$, 73,68$ pour le brut léger américain. Et puis, parallèlement, ça continue de piquer autour des taux d'intérêt. 10 ans, 4,58$ pour le 10 ans américain, 3,07$ pour le 10 ans allemand, 3,78$ pour le 10 ans français.
C'est ça, exactement. Il y a des tensions obligataires à nouveau avec la remontée aussi des cours du pétrole, la reprise des hostilités entre américains et iraniens. Détail à suivre hein, sur les derniers événements, justement, au Moyen-Orient dans un instant. Et puis, on parlera aussi, allez, pour prendre un peu d'air, du secteur bancaire. Est-ce qu'on va vers une nette accélération haussière? Ben, lui, il croit. David Benamoui nous expliquera dans 20 minutes à quel point le secteur bancaire est au bord d'une rupture de modèle, sans doute équivalente à ce qui a permis aux banques américaines de grandir en taille sous Bill Clinton. On va peut-être vers une forme de boom du secteur, comparable à ce que les banques américaines ont connu et vécu dans les années 90. Il nous expliquera pourquoi, ce sera intéressant à partir de 16h20 tout à l'heure. BFM Bourse sur toutes ces batailles de marché et BFM Business sur l'ensemble des enjeux du moment. D'abord le FMI qui abaisse une nouvelle fois, qui abaisse sa prévision de croissance mondiale. Ce sera 3%, soit 0,1 point de moins que prévu en avril. Estimation faite avant la reprise des hostilités l'année dernière au Moyen-Orient. Donald Trump qui affirme donc que les États-Unis vont frapper fort l'Iran la nuit prochaine. Déclaration à l'issue du sommet de l'OTAN à Ankara. Le président américain, après avoir sévèrement critiqué ses partenaires hier, parle maintenant d'une très bonne rencontre à ce sommet de l'OTAN. Il y avait, dit-il, beaucoup d'amour dans la pièce, beaucoup d'unité. Parmi les dernières annonces sur place, Donald Trump dit que les États-Unis vont autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles Patriot. Et puis dans le secteur bancaire, et on en parlait à l'instant, les perspectives de ce secteur, eh bien, l'italien Unicredit annonce détenir 47,6% de Commerzbank après la prolongation de son OPA. Mais la direction de Commerzbank reste hostile à l'opération. Le gouvernement allemand, qui en est actionnaire aussi. Commerzbank révèle d'ailleurs que le faible taux d'acceptation de l'OPA parmi les actionnaires indépendants démontre le manque d'attractivité de l'offre. Oui, oui, on en parlera aussi. C'est BFM Bourse avec vous pour encore quasiment 2 heures.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et donc notre corps à corps quotidien avec les marchés financiers. Alors dans quelques minutes, Donald Trump va tenir une conférence de presse à l'occasion du sommet de l'OTAN. Donald Trump qui juge les Iraniens menteurs et qui tout à l'heure expliquait que même s'il y avait un accord avec les Iraniens, il n'est désormais pas sûr que cet accord pourrait tenir très longtemps. Voilà, voilà l'ambiance. C'est le pétrole qui remonte, Antoine, aujourd'hui. C'est le fait du jour, nette hausse du baril de Brent.
77,82 $ effectivement pour le Brent de mer du Nord. Et ça fait les affaires de Total hein, qui gagne 1,6% à 68,86 €. À noter que concernant cette forte correction des marchés, ben la tech y échappe. L'Euronext Tech Leaders n'est qu'en légère baisse, moins 0,18%, alors que le CAC perd 1,7%. ST Microelectronics, d'ailleurs, signe la plus forte hausse de l'indice vedette de la Bourse de Paris, plus 1,48 € à 59,16 €. Et la troisième hausse du moment, c'est Legrand, qui gagne 0,7% à 142,80 €, évidemment. Très lié au dossier tech et intelligence artificielle via les data centers, évidemment. Et EssilorLuxottica vit encore une séance très difficile. Le passage devient délicat, hein, vraiment pour le titre, qui perd 4,4% en ce moment à 168,05 €. Du côté des titres à la hausse, on a pas mal de valeurs de la santé, hein, très résistantes en cas de turbulence de marché. C'est le cas de DBV Technologies qui gagne 4,5% à 3 €. Et puis sinon, ce n'est que des titres pétroliers ou parapétroliers. Morel et Prom plus 6,1% à 8,09 €. Valourec plus 3,88 € à 21,17 €. GTT plus 3,5 % à 193,60 €. Oui, parallèlement, on a aussi depuis hier une grosse flambée des prix du gaz. Et donc, ça fait aussi les affaires de tout le secteur parapétrolier. À signaler, mais on va en reparler très, très largement, de Vivendi, hein, qui perd 11,4% à 1,95 €. Et puis, pétrole plus cher, ça fait pas les affaires du secteur aérien. Air France KLM, moins 5,7 € à 12,96 € et ADP, moins 4,4 € à 110,80 €.
Thibaut François, toujours avec nous pour Fastea. Thibaut, une valeur profite évidemment de ce contexte qu'on vit aujourd'hui. On va la regarder dans les yeux, Total Energy. Voilà, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous ratez cette courbe, mais on va vous la décrire, de Total Energy, qui tout à l'heure à 11h était sur top du jour. Hein. Vous le voyez à 70,09€. Depuis la hausse, c'est un peu restreinte, mais on gagne toujours 1,7% là, 68,93€. Bon, est-ce qu'il faut en tirer des conclusions quand on est investisseur, ou on se dit que le pétrole va aussi vite repartir à la baisse? Là, Donald Trump explique que même si accord il finissait par y avoir avec l'Iran, il ne pense pas que cet accord pourrait tenir très longtemps. Il menace même Donald Trump, il y a quelques instants, de remettre en place un blocus sur les biens iraniens dans le détroit d'Ormuz, Thibault.
Oui, bah alors pour l'instant, ce qui se passe sur Total, effectivement, c'est que le marché paye ce matin Total, parce qu'effectivement le pétrole est bien remonté. Forcément, on a beaucoup plus de volatilité. On a le VIX qui est repassé au-dessus de 17. Donc tout ça, ça amène à de l'attention sur les prix, forcément. En fait, Total, bien sûr, est corrélé au prix du pétrole. Hein. Si le prix du pétrole monte, les marges de raffinage, notamment de Total, vont exploser, notamment à la hausse. Donc c'est vrai que depuis on s'attend déjà à un gros premier semestre de Total. Elle avait déjà bénéficié de cet effet prix sur le premier semestre. Mais en fait, Total, il faut la suivre aussi avec les fondamentaux de Total. Total, alors c'est un effet d'aubaine, on va dire, le prix du pétrole. Aujourd'hui, même si le prix du pétrole était un petit peu plus bas, Total est aujourd'hui un des meilleurs acteurs mondiaux sur les marges de raffinage. Ils ont une capacité à produire pas cher qui est extrêmement intéressante. La valorisation est particulièrement faible. Donc déjà, sans cette hausse du prix du pétrole, je pense que Total, à avoir en portefeuille, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que on a cette petite cerise sur le gâteau avec l'effet d'aubaine qu'on a encore aujourd'hui, mais qu'on a déjà eu largement sur le premier semestre. Les prix sont à la hausse, et donc c'est vrai qu'avec une demande qui reste stable, ça sera tout bénéfique pour les producteurs de pétrole et notamment pour Total. Donc Total positif, on va dire, d'un point de vue fondamental. Et en plus, on est dans un momentum extrêmement favorable depuis le début de l'année sur le dossier. Donc on a toutes les planètes qui sont alignées pour que Total puisse continuer à progresser en bourse dans les prochaines semaines.
Autre titre du secteur qui gagne pas mal de terrain, même 3% de hausse, encore mieux que Total Energy. Plus 3, c'est Vallourec qui annonce en plus un programme de rachat d'actions de 110 millions d'euros. Ça plaît aux investisseurs, bien sûr.
Oui, alors il y a en fait, et là c'est pareil, il y a un double effet encore. C'est sur Vallourec, c'est 110 millions d'euros de rachat d'actions, donc ça c'est super, et en plus un dividende exceptionnel qui va être versé aux actionnaires. Donc c'est 650 millions d'euros qui vont être versés aux actionnaires dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc c'est bien sûr une bonne nouvelle pour les actionnaires minoritaires. Pour rappel, Vallourec a largement fini sa restructuration financière. Ils ont réussi à négocier dans de bonnes conditions, maintenant il y a quelques années, l'étalement de leur endettement, avec une augmentation de capital aussi. Ils ont retrouvé, d'un point de vue opérationnel, une marge de manœuvre assez importante. Les cash flows sont positifs depuis quelques trimestres sur le dossier Vallourec. Donc tout va bien sur le dossier, avec en plus cet effet domaine comme sur Total, avec des prix du pétrole qui sont plutôt à la hausse et donc des investissements qui sont plutôt importants sur l'ensemble du secteur.
Vallourec à plus 3% donc aujourd'hui. L'Oréal, venons-en à L'Oréal, qui obtient de Kering la licence exclusive des produits Gucci, un accord de licence exclusive de 50 ans. Ça ne profite pas du tout à L'Oréal. Le titre recule même d'1,9%. Kering aussi perd 3%, Thibault.
Ouais, alors le secteur en règle générale, le secteur du luxe, même si on n'est pas tous d'accord savoir s'il faut mettre L'Oréal dans la partie luxe, mais effectivement l'ensemble du secteur est quand même sous pression. Les tensions géopolitiques n'aident pas le business du luxe en règle générale. En plus, c'est sur des zones qui sont particulièrement actives et riches. Donc c'est vrai que tout le Moyen-Orient est touché. Donc forcément, ça complique, on va dire, le tourisme et cette zone qui est particulièrement dynamique et représentative d'un point de vue marge pour l'ensemble du secteur. Donc bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour L'Oréal. Un contrat de 50 ans sur la marque Gucci, c'est un super contrat. C'était plus ou moins déjà dans les tuyaux, mais là ça va arriver avec un an d'avance. 400 millions d'euros d'indemnité à Coty, ce qui est pas grand chose, on va dire, d'un point de vue global, et surtout avec les revenus qui sont attendus pour L'Oréal. C'est une très bonne nouvelle pour L'Oréal. C'est pas une mauvaise nouvelle pour Kering, hein, qui va bénéficier aussi de ce partenariat et de cette licence, mais c'est vrai que d'un point de vue aujourd'hui, c'est c'est gommé, on va dire, par la partie tension en Iran. Et je pense que ça pourra repartir dans les prochaines semaines.
Ouais, mais ce titre L'Oréal, vous l'aimez fondamentalement, vous estimez qu'il a de quoi résister aussi aux réflexes de plus en plus patriotes des Chinois de venir aller utiliser des marques locales plutôt que des marques occidentales. C'est pas un sujet suffisant, enfin en tout cas le phénomène pas suffisant pour déstabiliser les perspectives de L'Oréal.
J'ai du mal à croire que les grandes marques de luxe et les grandes marques en général vont disparaître au profit de quelques marques locales, même si elles sont bien marketées. Je pense qu'il y a une place à prendre en règle générale. Alors L'Oréal aujourd'hui, le momentum est encore une fois avec les tensions en Iran et les tensions géopolitiques, en règle générale, le secteur est vraiment sous pression, donc le momentum n'est pas très favorable. Mais par contre, d'un point de vue fondamental, je pense que les valeurs de luxe vont sortir gagnants, on va dire, de cette crise géopolitique.
Et puis Vivendi, il faut quand même qu'on en dise un mot de Vivendi, qui perd 11,4% aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris estime que Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas Vivendi, ce qui éloigne du coup l'espoir d'une OPA. Moins 11 Vivendi aujourd'hui. Vous êtes surpris par cette décision judiciaire ?
Pas surpris, parce qu'effectivement, si on regarde les textes, il faut avoir plus de 30% pour lancer une OPA sur le dossier. Donc, aujourd'hui, le groupe Bolloré détient 29,9% de Vivendi. Donc techniquement, et si on regarde vraiment les textes et qu'on les respecte, franchement, c'est pas une grosse surprise. Maintenant, on sait bien que le groupe Bolloré est toujours un petit peu à la limite, qu'il y a un contrôle qui est plus ou moins flagrant sur l'ensemble des dossiers qu'ils contrôlent, avec notamment les différentes holdings et les cascades de holdings qu'ils ont au-dessus. Donc aujourd'hui, c'est une déception pour la minoritaire, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le groupe Bolloré va pouvoir continuer à gérer entre guillemets les 29,9% de Vivendi, on va dire comme ils l'entendent, sans lancer d'OPA. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prime d'OPA, ça veut dire que les minoritaires vont prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir éventuellement sortir du dossier. Donc c'est vrai qu'à court terme, c'est une déception. Maintenant, à moyen long terme, je pense que c'est pas une décision vraiment qui est surprenante pour le marché.
Merci beaucoup Thibaut François, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35, Vivendi perd 11,5%, le CAC moins 1,8%, et une idée en plus pour vos portefeuilles, c'est Xavier Miveau qui va nous la livrer, Tiepolo. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Vous avez 2 minutes 30 Xavier pour nous parler d'un titre que vous aimez bien. Alors on va vous laisser le présenter. Tonies, c'est ça. Que fait ce groupe ? Et puis ensuite on va challenger votre idée. Pourquoi Tonies ?
Alors Tonies, c'est une société allemande déjà. Elle est cotée à Francfort. Elle capitalise 1,6 milliard. Elle fait 630 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors elle a inventé une sorte de boîte à histoire pour les enfants de 1 à 10 ans. Là, c'est Tony Box. On pose dessus des petites figurines, les Tonies, et ça déclenche une histoire. Alors il n'y a pas d'écran. C'est justement ça l'idée forte. C'est une alternative à la tablette pour les tout-petits, à un moment où c'est vrai, beaucoup de parents et même de pays se posent des questions et s'inquiètent sur du temps d'écran chez les enfants. Le modèle économique, il est intéressant. C'est un peu rasoir lame ou imprimante cartouche. C'est le vrai moteur. C'est les figurines qui font 70% des ventes avec de meilleures marges. Et il faut savoir qu'une fois la boîte achetée, les familles achètent en moyenne une vingtaine de figurines en à peu près 4 ans. Donc c'est un modèle qui offre une vraie belle visibilité. Tonies a déjà vendu près de 12 millions de boîtes à un rythme de croissance assez exponentiel et près de 160 millions de figurines. Entre 2020 et 2021 et 25, pardon, la croissance moyenne annuelle était de 36%. Ils ont des licences, Disney, Warner, Universal, et d'ailleurs un des prochains catalyseurs, ça sera le lancement cet été de la licence Pokémon, qui est la plus grosse licence mondiale dans le jeu. Alors la société a tenu il y a quelques semaines sa première journée investisseur, et le message était qu'on en est qu'au début. La direction vise plus de 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030, donc plus qu'un doublement, avec une marge d'EBITDA qui pourrait passer de moins de 9 à plus de 16%. Le moteur principal, c'est les États-Unis. Alors c'est leur premier marché, mais ils sont encore pénétrés qu'à 12% des foyers, contre près de 60% en Allemagne. Donc le potentiel américain reste absolument immense.
Sauf que le cash généré était négatif l'an dernier, le titre a doublé là en un an. On n'arrive pas un peu tard sur une valeur déjà chère avec Tonies ?
Alors, le cash, c'est effectivement un point de vigilance. Hein. Il était négatif et ça s'explique effectivement par un stock constitué volontairement pour lancer la nouvelle génération de boîtes. La direction vise un retour à cash flow positif dès cette année. Et pour la valorisation, oui, les investisseurs ont commencé à identifier l'histoire, mais le parcours déjà sympathique ne reflète pas complètement tout le développement avec la hausse de la hausse de la rentabilité.
Xavier Milvaux, donc ce titre Tonies, T-O-N-I-E-S, pour ceux qui seraient intéressés, Xavier Milvaux et ses équipes chez Tiepolo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout à l'heure, c'était dans USA Today, on évoquait aussi la tech américaine. Et alors désormais, pour se décorréler du Nasdaq, mieux vaut acheter des 7 magnifiques, figurez-vous. Et on en parlait avec Frédéric Rosier, c'est paradoxal, mais c'est peut-être ce qui est le plus décorrélant du Nasdaq désormais. C'est paradoxal parce que les semi-conducteurs ont pris beaucoup de poids dans ce Nasdaq. Et désormais, si vous voulez faire diverger vos performances tech de celles des semi-conducteurs, les 7 magnifiques, vous y êtes. Donc les 7 magnifiques pour décorréler vos pertes du Nasdaq, c'est un point de vue un peu poussé, c'est vrai, mais intéressant sur les nouvelles tendances du marché. USA Today en podcast.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et le pétrole cet après-midi, donc c'est le fait du jour, poursuit son rebond. On est à plus de $78 pour le baril de Brent. Léa Dauphas nous rejoint pour TAC Economics. Bonjour Léa.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Rebond du pétrole après la reprise des bombardements américains sur certains sites iraniens. Donald Trump qui dit que pour lui, cessez-le-feu est terminé. En gros, c'est l'inflation qui revient là avec la hausse du pétrole au cœur des débats, Léa.
Alors, l'inflation revient au cœur des débats, pas nécessairement dans les chiffrages. Hein. Pour l'instant, le point haut, il est derrière. Le fait qu'on soit à 80-90 $ le baril, c'est en réalité plutôt sain quand on regarde les fondamentaux d'offres et demandes de pétrole. C'est plutôt le pricing de marché un peu trop bas qui interrogeait. 80-90 $, ça ne fera pas ressurgir une nouvelle séquence de hausse des prix de l'énergie. Encore une fois, il faut que ça reste dans ces ranges. Moi, il y a plutôt deux choses que je regarde, plutôt que la question de l'inflation. C'est un, la réaction que les banques centrales vont avoir face à ça. C'est-à-dire qu'on sentait bien que sur les dernières semaines, la capacité des banques centrales à engendrer d'autres hausses commençait à être questionnée. Donc, est-ce qu'elles voient ça comme plutôt quelque chose de transitoire, on passe au travers ou non? Et puis surtout, je pense que le point majeur, c'est la dynamique sur les taux longs. Ce qu'on a observé depuis le passage du mémorandum, c'est qu'en gros, la prime d'inflation dans les taux longs avait fortement baissé. Et c'était plutôt la prime taux réel qui entretenait cet effet sur les taux longs. Et là, la séquence, c'est de dire, est-ce que désormais, on reprend à ces niveaux de taux longs qui sont d'ores et déjà plus élevés, une prime d'inflation avec tous les risques que ça peut engendrer en ce moment?
Léa, on attend ce soir les minutes de la Réserve fédérale américaine. Alors, un petit peu spécial parce que c'est les premières minutes qui seront publiées depuis l'accession à la présidence de la Fed du nouveau patron, Kevin Warsh. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il a dit qu'il allait simplifier la communication de la Fed. Ce sera quoi, un communiqué de 3 lignes, un tweet, c'est à la mode, ou quelque chose de cet ordre-là? Enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces minutes de la Fed?
Alors, je n'en ai absolument aucune idée, et c'est peut-être pour ça que c'est justement celles qui vont être le plus scrutées. Est-ce qu'on va avoir le même format que le compte-rendu de politique monétaire de la dernière fois? À voir, vraiment, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt deux choses. C'est la question de la dissension au sein des membres et du board. Pourquoi on a eu vraiment ces relèvements sur un certain nombre de boards qui ont été au quiche? Et je pense que le point qui est aussi important à avoir, c'est la dynamique qu'ils ont à la fois sur l'inflation et la croissance américaine. L'inflation, c'est ce que je disais, je pense que le choc intégré du conflit en Iran n'est pas tant le problème aujourd'hui sur l'inflation américaine. Le problème, c'est est-ce qu'on a une inflation qui va sur un plancher plus haut? Est-ce qu'on a un risque d'inflation au-delà du conflit? Ça m'intéresse beaucoup de le regarder. Et puis la question de dynamique de croissance, on l'a bien vu, hein, on a une résilience extrêmement forte de la croissance américaine. C'est effectivement amené par l'investissement en IA, mais aussi tout le côté consommation, et leur lecture des derniers mois de la consommation et du marché du travail sera extrêmement importante à avoir.
Et pendant ce temps, le FMI, alors c'était avant le retour des tensions là-bas au Moyen-Orient et la remontée du pétrole aujourd'hui, le FMI a légèrement abaissé à nouveau à 3% sa prévision de croissance mondiale pour cette année, une légère baisse de 0,1 point. Qu'est-ce que vous retenez de particulier des nouvelles prévisions du Fonds monétaire?
C'est un peu les mêmes prévisions que tout le monde, et je recommande aussi de lire le dernier communiqué, le dernier rapport de la BRI, parce que je trouve que c'est un message extrêmement important, c'est-à-dire que on a, au fur et à mesure des chocs, hein, on le voit bien, les papiers du FMI sortent juste avant un conflit et l'update sort juste après, et on voit bien à chaque fois des révisions très fortes à la hausse au début du conflit et ensuite, et ils pointent tous la capacité de résilience des économies, surtout de l'économie américaine, plus des autres économies emportées par l'investissement IA. Et face à ça, on se rend bien compte que les fragilités sont de plus en plus fortes, c'est-à-dire que les économies résistent aux chocs, sont de plus en plus résilientes, mais fonctionnent sur des bases qui deviennent, elles, de plus en plus fragiles. Et donc, même si dans l'ensemble, les projections au global sont très bonnes, en réalité, on voit des facteurs de fragilité se mettre en place de plus en plus profondément sur cet environnement global.
Merci Léa Dauphas pour TAC Economics avec nous cet après-midi.
Merci.
Bon après-midi Léa, le CAC 40 recule d'1,8%. C'est toujours l'Europe qui souffre le plus de la remontée des cours du pétrole parce que ça s'accompagne du remontée des taux obligataires. Antoine, vous nous le disiez, le 10 ans allemand est à plus de 3% cet après-midi. C'est sa 8e séance de hausse d'affilée au 10 ans allemand. Le 10 ans français aussi sous tension à plus 3,8%. Avec en plus l'adoption d'un budget cet automne qui sera sans doute compliqué. En tout cas, un budget sans doute pas très efficace pour réduire les dépenses publiques parce qu'on sera à quelques mois de la présidentielle. On sera en pleine campagne. Donc voilà, pas mal d'interrogations des marchés sur le 10 ans français, en tout cas sur la dette française, le 10 ans qui monte encore à 3,8. On en parlera dans le club à partir de 17h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Les banques en bourse, mais pas qu'en bourse, dans leur ADN même, sont en pleine métamorphose. Il en est convaincu, David Benhamou nous rejoint Axiom Alternative Investment. Bonjour David.
Bonsoir.
Alors les bénéfices des banques françaises ont bondi l'an dernier sur un an de 10%, malgré une surtaxe exceptionnelle ici en France, mais c'est pas de ça que vous venez nous parler aujourd'hui.
Non, parce que ça fait l'an dernier, les années précédentes, ça fait 20 et quelques trimestres qu'on parle des bons résultats du secteur, du fait qu'elle délivre des résultats au-dessus des attentes, etc. etc. Tout ça s'est accompagné d'une très, très, très belle performance boursière. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus intéressant, c'est ce qui s'est déroulé sur la partie crédit. Puisque on a assisté au fur et à mesure des trimestres de bons résultats du secteur à une amélioration très très forte des notations de crédit des banques. On a une avalanche en fait d'upgrade par rapport au downgrade. Hein. Les ratios 2025, c'est plus de 4 fois. Et ça s'est traduit par exemple dans nos fonds de dette subordonnée qui étaient avant sub-investment grade. Aujourd'hui en fait les émetteurs sont à moins et le portefeuille en fait il est triple B, triple B plus. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est quand même assez spectaculaire. Et ça a des conséquences pour le secteur qui sont importantes en termes de coût de financement, puisque évidemment les notations passant, enfin s'améliorant, le coût global du capital du secteur s'est abaissé. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux, ça facilite la consolidation et les rachats, l'efficacité opérationnelle. Donc tout ça y est.
Oui, avalanche de rehaussement de notation de crédit sur le secteur financier, c'est vraiment ce qui vous frappe et ce qui, pour vous, pourrait marquer une véritable puissante impulsion pour plus de consolidation. C'est vraiment ça que vous venez de nous annoncer aujourd'hui, c'est au-delà de leur bonne santé, etc. On va vers une consolidation historique peut-être de ce secteur bancaire désormais.
Oui, on voit en Europe que ça a commencé, puisqu'on a maintenant des opérations tous les trimestres, on a des nouvelles opérations qui sont annoncées. Rarement des opérations en fait qui sont cross-border, puisqu'on voit encore des contraintes, des barrières nationales, mais on voit quand même qu'il y a une tendance qui s'est lancée. Okay. En France, on a vu deux banques mutualistes françaises faire des opérations à l'étranger, BPCE avec Novo Banco, et puis Allianz Crédit Mutuel avec Oldenburg et Landesbank en Allemagne. Donc on voit ça, c'est en train de se dérouler. Alors évidemment, il y a des barrières. On a tout ça à l'impression. On a l'impression que c'est lent. On parle de la consolidation du secteur, mais on a l'impression que ça avance pas.
C'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on en parle. Alors on sait qu'il y a une forme de crispation politique peut-être chez nous en France qui empêche des fusions transfrontalières. Enfin, tout du moins dans un sens, peut-être pas dans l'autre. Hein. Ouais. On a vu BNP avec BNL en Italie il y a quelques années. Ça s'est très très bien passé. On imagine mal une banque italienne racheter une banque française. Donc ça se passe toujours dans des sens avantageux. Malgré tout, on a l'impression que ces crispations politiques, ça ne fait pas que le sujet. Il y a aussi des crispations vraiment économiques et sur le business qui ont l'air d'empêcher le mouvement.
Oui, puis il y a des barrières qui sont techniques, c'est-à-dire des règles de calcul de capital, de liquidité, qui imposent encore en quelque sorte une préférence locale. Mais ce qu'il y a de fascinant, C'est que quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, il y a des grandes banques, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, on a tous ces géants qu'on trouve absolument tous fascinants. Ce qu'on a oublié, c'est que tout ça s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, cette consolidation aux États-Unis. Dans les années 90, entre 94 et 99, il y a eu deux changements de texte qui ont permis cette accélération. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a...
Et vous allez nous en parler, parce que c'est peut-être ce qui va arriver en Europe aussi, ce qui s'est passé sous l'ère Clinton pour le secteur bancaire américain, ce qui lui a permis de prendre une nouvelle dimension sous Bill Clinton, arrive peut-être ici en Europe. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque sous Bill Clinton?
C'est ça, ça nous donne en fait un éclairage intéressant sur l'Europe. Ce qu'il faut, ce dont il faut se souvenir, c'est que jusqu'en 1994, aux États-Unis, vous ne pouviez pas ouvrir une succursale dans un autre État que là où vous étiez. C'est dingue. Donc, imaginez, on est un petit peu en avance en Europe, puisqu'on peut ouvrir des succursales dans d'autres États. Donc, il y avait un texte qui datait des années 20, qui s'appelait le McFadden Act, qui vous empêchait d'ouvrir des succursales. Donc, il y a une première réforme en 94, le Riegel-Steele Act, qui a permis aux banques de commencer à ouvrir des succursales dans d'autres États, puis surtout de faire des acquisitions. Ce texte-là, ça a donné naissance à Citigroup. C'est dingue, hein. Donc et ensuite en 99 un autre texte qui a aboli cette fois-ci vous souvenez du Glass-Steagall Act qui empêchait globalement de rassembler une banque retail, une banque de détail avec une banque d'investissement, mais tout ça a été aboli en 1999 et ça a donné naissance à Bank of America.
Donc, c'est arrivé là-bas, et vous dites ça va arriver ici.
Mais en fait, quand on regarde, en fait, on a les mêmes problèmes. Alors moins importants, puisque nous, on peut déjà ouvrir des succursales de banques européennes dans d'autres États, mais on a des contraintes en termes de capital. Par exemple, un régulateur va vous imposer de mettre plus de capital, enfin de garder une quotité de capital en fait importante au plan local, alors que vous pourriez la tenir dans votre maison mère, tout simplement en consolidant. Pareil pour la liquidité, il y a tout un tas de petits détails, on laisse aux États des préférences nationales qui empêchent tout ça. Mais voilà, il y a depuis maintenant 24 mois une volonté, alors d'abord qu'il y a une volonté étonnamment en fait politique, puisque les trésors en fait ont poussé finalement pour remettre la compétitivité au cœur des réformes bancaires, et puis les régulateurs qui poussent de leur vœu. Donc, on est petit à petit, on est dans les années 90 pour le secteur bancaire quelque part.
Le rapport Draghi évoquait tout ça, ce que vous nous disiez sur justement ce type de réforme à mettre en œuvre, parce qu'on sent que les instances européennes souhaitent mettre en œuvre le rapport Draghi. Il n'a pas été voté, mais voilà.
Absolument, c'est ça qui a réveillé un petit peu les foules entre guillemets et qui a fait prendre conscience à tout le monde qu'il faut qu'on avance parce que on est en retard.
Donc ce que vous nous dites est dans ce rapport Draghi. Vous sentez que là les astres s'alignent pour que ces réformes se mettent en place ou il y aura encore trop d'obstacles, trop de lenteur? Cette fois ça va se faire, c'est ça que vous voulez
dire? Ça va se faire petit à petit, d'accord. Parce qu'elles ont commencé, il y a des résistances nationales, ce qu'on appelle l'EDIS, qui est l'Union des dépôts, qui est quelque chose de clé, on progresse à petites touches, à petits pas.
Et quelle banque vous voyez comme fleuron de ce mouvement à venir?
Alors,
de transformation, de nouvelles dimensions aussi, comme les banques américaines ont pris une nouvelle dimension dans les années 90.
Pour les grandes banques qui ont déjà opéré des consolidations, entre guillemets, transnationales, BNP, par exemple, qui est déjà sur plusieurs implantations en fait européennes et qui donc a déjà des process et je dirais un plan de marche ou un plan de bataille. Clairement, sont des banques en fait qui peuvent avancer plus vite que les autres. UniCredit. Alors on voit UniCredit avec Commerzbank, mais UniCredit a déjà à peu près une quarantaine de pourcents de son activité en Allemagne avec Hypo Vereinsbank qu'elle avait acquise il y a longtemps. Donc la double culture ou la triple culture entre guillemets, parce que ce sont des banques qui ont aussi des implantations dans d'autres pays. Donc toutes celles qui ont déjà cette expérience-là, on les processe, les systèmes pour intégrer, pour consolider.
Merci beaucoup. Donc David Bellamou, peut-être le big bang du secteur bancaire européen. Parce que c'est vrai que les banques européennes ont perdu beaucoup en taille comparé aux banques américaines ces dernières années.
Absolument. Ce sera une très bonne nouvelle pour l'actionnaire aussi. Enfin, ça continuera, entre guillemets.
Oui, parce qu'en plus, elle délivre des dividendes, etc. Enfin, c'est un secteur qui est vrai. C'est vrai, beaucoup d'arguments. David Bellamou, Axiom Alternative Investments avec nous. Merci beaucoup, David. Dans un instant, on se rebranche à la séance du jour. Le CAC perd 2% en ce moment. Wall Street aussi en repli. Surtout le Dow Jones qui dépend plus du pétrole que les autres indices. Le Dow Jones perd 1,2%. Pétrole en hausse. hein. On vient flirter avec les $80 là, $79 pour le Brent. On s'en parle avec Julien Marion qui va nous rejoindre dans le conseil de famille. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille BFM Bourse, le seul endroit où même vous choisissez vraiment, souverainement, rien que vous tout seul, votre famille, et c'est nous chaque jour sur BFM Business, jusqu'à 17h, hein, c'est une famille de 30 minutes à peine. Bonjour, rebonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour Antoine, et ravi de vous retrouver, ne serait-ce que pour une demi-heure, c'est tout.
Mais oui, c'est une demi-heure qui compte. BFMBourse.com, beaucoup d'articles encore aujourd'hui, on parlera de L'Oréal dans un instant, et Antoine aussi est avec nous en fil rouge, salut Antoine.
Et bien sûr.
On est en baisse, c'est compliqué avec la géopolitique, le retour du conflit en Iran, en tout cas Donald Trump dit qu'à ses yeux, il n'y a plus de cessez-le-feu. Voilà, le baril de Brent remonte à $79 cet après-midi. Julien.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une séance aussi marquée quand même. On était sur des petites séances sans trop de volatilité sur la place parisienne. Là, clairement, on prend bouillon. Alors, la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'un intermoment qui n'a pas vocation à durer trop longtemps ? Trump a tendance à agiter le chiffon dans un sens comme dans un autre très fortement.
Oui.
La fin du cessez-le-feu. Si le marché n'y croyait absolument pas, pas totalement, le baril n'est pas à $79 de Brent.
Il serait beaucoup plus haut.
Ouais. Là, il pondère la prime de risque qui revient. Je pense qu'il le fait avec une parcimonie qui me semble assez justifiée. Comment analyser cela ? Je veux dire, les derniers mois nous ont amenés à penser qu'en fait, on pouvait strictement rien prévoir.
Oui, oui. Donc on est toujours là. Et Donald Trump menace aussi de réinstaller un blocus sur les navires iraniens. Voilà ce qu'il a expliqué il y a quelques instants. Alors c'est vrai que le CAC perd 2%. L'Europe aussi, Antoine, perd 1,6%. L'Eurostock 50.
Oui, il y a aussi le fait, on en parlait avec Laurent Grassin de Boursorama ce matin dans Tout pour investir. Il y a surtout le fait que ça faisait des semaines qu'on parlait plus de guerre.
C'est vrai.
La guerre, elle est toujours là. Hein. Les problèmes ne sont pas réglés. On était sur un Memorandum of Understanding qui devait donner des négociations. Pour l'instant, ça traîne en longueur, etc. Le coup des on va frapper 80 cibles un soir, mais ce n'est pas une rupture du cessez-le-feu. Ou alors, si, mais c'est eux. Ils nous l'avaient déjà fait le coup avant la signature électronique avec les Iraniens de leur accord cadre. Mais pour autant, voilà, le marché se rappelle juste que oui, la guerre, elle n'est pas du tout finie, que les problèmes ne sont pas du tout réglés. Et là, en ce moment, ce qui est en train de se passer sur les taux est un petit peu plus inquiétant parce qu'on est en train de reprendre en compte une certaine prime spéculative et inflationniste liée au coût de l'énergie, mais pas que. Donc, du coup, voilà, c'est sans doute une piqûre de rappel, mais qui est un petit peu douloureuse à porter.
C'est vrai, c'est l'autre fait du jour, hein, les taux qui montent partout. Le 10 ans américain est sur un plus haut. Alors, d'un mois, c'est pas grave, 4,59. Et le 10 ans allemand enchaîne une 8e séance d'affilée de hausse, ouais, de tension. On est à plus de 3% sur le 10 ans allemand et le 10 ans français, lui, est à 3,8. Qu'est-ce que vous faites?
Non, excusez-moi, il n'y a rien de drôle. C'est juste que vous voyez, le 10 ans allemand, est à 3%. J'ai l'impression que c'était hier qu'il était négatif. Enfin, les taux négatifs, oui. C'était à court terme, mais il était quasiment à zéro pendant des années. Et là, on est à 3%.
Ah non, c'est le new normal.
Les temps changent, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, alors, 10 ans français, il se tend aussi parce qu'on a une présidentielle qui approche, qui s'annonce bien tendue quand même. Et il sera compliqué cet automne d'adopter un budget très efficace, très offensif, d'adopter un budget optimal pour réduire les dépenses en phase de campagne électorale. Romain Daubry nous rejoint pour Bourse Direct. Bonjour, Romain. On est ravi de vous retrouver.
Bonjour, Guillaume.
Dans ce contexte qu'on décrit là, avec le retour, donc, pas que des tensions au Moyen-Orient, mais carrément des bombardements. Hein. Les Américains expliquent avoir bombardé la nuit dernière 80 sites iraniens. L'Iran aussi, qui se dit légitime à cibler des cibles américaines dans la région. Donald Trump qui prévient d'ailleurs que la nuit prochaine sera une nuit difficile pour l'Iran, donc sans doute de nouvelles frappes. Comment vous voyez dans ce marché-là les forces en présence aujourd'hui ?
Bien, c'est ce qu'on décrit ensemble depuis quelques séances maintenant, une hausse en Europe qui s'est mal construite, hein, avec un déficit d'intérêt. Donc c'est vrai qu'on a formé de nouveaux plus hauts sur l'indice Eurostoxx régulièrement, mais on l'évoquait ensemble à chaque jour, pas de soutien acheteur dans le mouvement, des risques de retracement et puis une grosse complaisance du côté des ratios put-call. Il faut rappeler aussi qu'on est bien dans une semaine qui est assez creuse en termes de publications et d'annonces, que ce soit macro ou microéconomique, et on attend la saison des publications. Donc les niveaux étaient propices à des retracements, et évidemment la géopolitique vient enfoncer le clou de ce mouvement. Pour l'instant, ça reste assez canalisé. On a une petite pression baissière qu'on a enregistrée hier et avant-hier sur les indices européens ou américains, mais pas de quoi détecter des mouvements forts à la baisse. On est calé entre des niveaux techniques et surtout au-delà de supports qui, pour l'instant, sont préservés sur la plupart des grands indices.
Quels sont les prochains supports du coup à suivre sur ces grands indices en Europe ou aux États-Unis ?
Alors, si on regarde l'indice Eurostox, c'est la zone qu'on avait fixée ensemble, c'est 6202, le niveau d'alerte. On l'a testé ce matin, 6182, 6202. On l'a testé ce matin, mais on le réintègre assez rapidement. Le plafond de verre et la grosse résistance, il est situé entre 6395 et 6450. Donc, une zone de congestion latérale. Le message du jour n'est pas excellent. Hein. On ouvre avec un gap baissier, dans un mouvement de baisse assez marqué. Mais pour l'instant, on n'accélère pas sous les niveaux importants. Sur l'indice CAC 40, on est entre deux gaps, les gaps qu'on a bien identifiés. Celui baissier du 2 mars dernier sous 8562, qu'on a comblé mais qu'on n'a pas réussi à préserver, et puis celui qu'on avait laissé ouvert le 12 juin dernier, qu'on a comblé pour l'instant, au-delà de 8259 points. Donc on est dans un marché sans tendance sur la plupart des indices, et on voit toujours ces mouvements de contre-pied qui se mettent en place. Si on veut un niveau technique important à surveiller sur le Nasdaq 100, on l'a évoqué en début de semaine ensemble aussi, c'est 28957 points. C'est le niveau qu'on a testé hier soir et au-delà duquel on ouvre pour l'instant. Sous ce niveau-là, on pourrait avoir des mouvements de baisse un peu plus marqués. Pour l'instant, on voit que c'est plus un mouvement de consolidation et à mon avis, surtout une situation d'attente en amont des publications. Un dernier élément intéressant, c'est que sur Micron, qui était quand même la star récemment, on avait formé une structure de retournement baissière. La cible baissière a été atteinte, donc on a peut-être un point d'entrée, en tout cas pas de signal d'achat pour l'instant, mais un mouvement de consolidation qui était légitime et dont certaines cibles ont été atteintes.
Romain, il y a un truc qui doit vous faire plaisir, c'est que ça se réveille drôlement bien du côté de la tech chinoise. On attendait le signal. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant sur les grosses capitech chinoises là en ce moment ?
Alors effectivement, on le surveillait depuis longtemps et manifestement, là, ça se met en place de façon plus harmonieuse. On voit Alibaba qui prend une dizaine de pourcents, on voit Baidu à près de 6%. Mmh. Moi, j'aime bien un titre comme JD.com aussi dans le même secteur. Ça, il y a quelque chose qui s'était construit depuis quelques séances et l'accélération qui se met en place malgré le contexte. Donc, c'est intéressant de noter qu'il y a une surperformance de ce côté-là et peut-être un arbitrage à faire. On peut aussi le traiter sous forme d'ETF. Ça permet de diversifier et de moins sélectionner, moins de faire du stock picking sur des indices qui ne sont pas évidents à traiter. Il y a l'ETF ASI, dont le code est ASI, qui est donc éligible uniquement au compte titre, donc qui va permettre de pondérer pas mal sur ces valeurs. Il cote environ 100 pour l'instant et on anticipe un mouvement de l'ordre d'une vingtaine de pourcents sur cet ETF. Et l'intérêt, c'est qu'on peut aussi le travailler sur un compte PEA avec le même ETF, quasiment la même pondération. Son code est PASI et celui-ci permet aussi d'avoir une exposition sur ce marché chinois qui a l'air de se reprendre et c'est éligible au PEA.
Romain Dobry, Bourse. Merci beaucoup. Romain, les bombardements reprennent en Iran. Pour vous, c'est la question du jour sur X et LinkedIn. Vous faites tous partie de la famille. Pour vous, est-ce que cette reprise des bombardements marque un tournant, une piqûre de rappel, ou est-ce une simple péripétie? Et du point de vue des marchés aussi, la baisse du CAC de 2%, une simple péripétie? C'est notre question sur X et LinkedIn. Surtout, apportez-nous aussi vos arguments en commentaire. On va rebondir dessus dans un instant. Julien, pour vous, reprise des bombardements, tournant, simple péripétie ou piqûre de rappel?
À ce stade, je resterai quand même sur une piqûre de rappel.
Ok.
Je pense qu'il faut, encore une fois, le marché, en fait, pondère le risque. Il le pondère, je pense, avec justesse. Encore une fois, si c'était vraiment un tournant, le baril de Brent, il ne se justifie pas à 79 dollars. Il faut être au moins à 100. Je veux dire, le détroit d'Hormuz fermé de façon permanente, on pense qu'on va largement sur les 130 dollars le baril. Donc, vous voyez qu'en fait, le marché fait encore preuve de sang-froid. Mmh. Il est évidemment impossible de prédire la suite. Ça, n'importe quel journaliste qui s'y est risqué ou analyste, je pense, les analystes sont payés pour ça, donc ils sont obligés, c'est leur rôle. Donc on ne peut pas leur vouloir de se tromper. Mmh. Mais tout le monde se plante. On s'est tous plantés là-dessus, personne n'avait vu la guerre venir à la base. Donc, pour moi,
Trump là vient de dire peut-être que nous allons faire des actions qui pourraient faire encore monter les cours du pétrole. Voilà ce qu'il vient de dire Donald Trump.
C'est dingue. Par contre, parce qu'on a toujours eu le rationnel de dire les midterms approchent, les élections de midterm. Donc les prix à la pompe seront impopulaires, donc ça va être un facteur limitant pour lui. Il met d'avis que ces arguments qui se tiennent totalement s'appliquent à quelqu'un qui a une logique rationnelle. Est-ce que Donald Trump a une logique rationnelle? Je vais poser la question.
Il a en tout cas sa logique, Antoine.
Oui, il faut voir les prix du pétrole. Il faut voir aussi le 10 ans américain. Généralement, quand ça monte du côté des 4,6%, il y a tout de suite des déclarations très encourageantes sur les discussions avec l'Iran. Oui, à voir, ouais. Effectivement. Mais bon, tout ça n'a aucun sens. Mais je suis tout à fait d'accord avec Julien. Piqûre de rappel, encore une fois, ça faisait des semaines qu'on prononçait plus le mot guerre et qu'on avait l'impression que le détroit d'Ormuz était grand ouvert. Vaguement, ça discutait dans un coin, mais voilà, bah non, la guerre, c'est pas fini. La guerre, c'est des missiles, c'est des morts, c'est des sites attaqués et c'est des répliques. Donc voilà, on va regarder ça avec un petit peu de stress, mais oui, piqûre de rappel.
Allez, on va regarder vos votes à tous qui avaient choisi de participer à cette question sur notre site et surtout Phil X et LinkedIn. Vous êtes d'accord avec Antoine et Julien, à 50%, vous estimez que c'est une simple piqûre de rappel, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alors, ça profite à Total Energy. Plus forte hausse du CAC, plus 2%. Et puis, Vallourec, dans le même secteur, annonce plus de 100 millions d'euros de rachat d'actions. Vallourec gagne 3,8%. Au milieu de ces considérations, une annonce d'entreprise importante. Julien, Kering a résilié avec un an d'avance son accord de licence sur Gucci avec Coty, ce qui permettra donc à L'Oréal d'exploiter en avance cette marque Gucci. Julien, expliquez-nous cet accord entre L'Oréal et Kering.
Pour rappel, Kering, en fait, ils ont vendu leur division beauté à L'Oréal. Donc, en fait, c'est prendre des marques qui appartiennent à Kering, donc comme Yves Saint Laurent, ils détiennent déjà Yves Saint Laurent, enfin, qu'importe, des marques comme Balenciaga de Kering, et d'en faire des parfums, des cosmétiques. Ça existe déjà, mais ils vont les reprendre à leur compte. Ce que cet accord prévoyait aussi, cet accord de vente, c'est qu'une fois que Coty n'aura plus la licence sur Gucci, eh ben, L'Oréal s'occuperait aussi de Gucci. Qu'est-ce qu'ont décidé de faire les entreprises? Kering s'est dit, bon, on va mettre fin à cet accord de licence un an en avance, donc en juin 2027 prochain. Ce qui fait que L'Oréal pourra développer Gucci avec un an d'avance, en juin 2027 plutôt qu'en juin 2028.
Les analystes semblent optimistes, du coup, sur cette capacité de L'Oréal à développer la marque, même si aujourd'hui L'Oréal recule de 2%. Mais vous suivez, vous lisez les analystes et vous les trouvez effectivement plutôt confiants.
Non, mais mauvaise journée, de toute façon. Je veux dire, là, la baisse, il ne faut pas y voir le moindre rapport avec l'annonce qui a été faite aujourd'hui. Évidemment que c'est le Moyen-Orient qui pèse sur tout le monde, y compris sur L'Oréal, qui est une entreprise qui appartient à la consommation discrétionnaire. Donc ça, forcément, ça, vous souffrez. Pour revenir à l'annonce.
Les analystes y croient,
oui,
clairement.
En fait, si vous voulez, les analystes, ils estiment qu'à l'heure actuelle, Gucci Beauté, donc les parfums, les cosmétiques dérivés de Gucci, ça représente à peu près 520 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant que Coty explique qu'ils avaient réussi à multiplier les revenus de 60% depuis 2019. Mais eux, ils pensent que L'Oréal fera encore mieux. Juste pour donner un chiffre, Barclays pense qu'à terme, Gucci, sous L'Oréal, c'est 5 milliards d'euros de ventes dans la division Beauté. Pourquoi ? Eh bien, parce que L'Oréal, en fait, a une force de frappe incroyable. En fait, dans la distribution, le marketing, la capacité d'innovation, tout ça fait qu'en fait, L'Oréal a une telle envergure, si vous voulez, que prendre une marque qui est porteuse, hein, Gucci, c'est quand même une grande marque de la mode, c'est peut-être une marque plus importante que Yves Saint Laurent, et pourtant, dans la parfumerie, ça se vend beaucoup moins.
Oui, donc optimisme, même si aujourd'hui ce titre L'Oréal, c'était pas la bonne séance pour annoncer ce genre de choses. Malheureusement, L'Oréal est en baisse d'un peu plus de 2%.
Mais c'est une meilleure, enfin, les analystes vous disent que c'est une bonne nouvelle. Faut pas la sous-estimer.
D'accord.
Juste pour vous donner.
Donc ça fera un effet rebond quand on sortira de la séance.
Un dernier chiffre, un seul. Citi vous dit que Gucci, exploiter Gucci pour L'Oréal Beauté, c'est 0,5 points de croissance structurelle pour L'Oréal en plus. Et un demi-point de croissance, c'est très important.
Julien Marion, l'article est disponible, c'est sur notre site bfmbourse.com. Il est 16h47. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint pour déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, c'est Charles Monod qui est avec nous, advisor de Monocle Asset Management, pour combattre les idées un peu trop faciles en bourse. C'est notre résistant aux idées faciles. Bonjour Charles.
Bonjour Guillaume.
On va parler d'un titre, d'un producteur de frites surgelées, c'est ça Charles?
Ouais.
On va parler de Lamb Weston, on est aux États-Unis, qui est à moins 60% en 3 ans en bourse à Wall Street, Lamb Weston. Vous pensez-vous que le marché a tort et que cette chute, c'est du bullshit? Et vous foudroyez cette idée que les frites surgelées, en tout cas celle-là, Lamb Weston, n'auraient plus d'avenir boursier. Continuez d'acheter cette valeur. Vous l'aimez.
Alors, je continue pas, je commence.
D'accord.
En l'occurrence, on s'était pris une tarte dessus il y a 2 ans. Donc on a appris, vous savez, quand vous faites un peu secouer méchamment sur une action, vous ressortez de l'arène et vous regardez loin. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que comme c'est une très belle boîte, quand même, enfin fondamentalement, le business devrait être bien, parce que c'est le premier fournisseur de frites, quelque part, à McDo. Et c'est 75% des ventes aux US, donc normalement ça devrait être un business qui devrait pas faire justement les moins 60 en 3 ans et avoir une volatilité de 50% comme on l'a aujourd'hui. Et en fait, ils ont eu un truc qu'on connaît bien dans le pétrole, qu'on appelle le boom and bust, c'est-à-dire que quand le pétrole monte, tout le monde met de la production, et au bout d'un moment, il y a plein de production et il y a la demande rebaisse, et là tout se casse la gueule. connaissaient moins dans la patate, mais ils ont fait un peu pareil. Donc ils sont amenés post le Covid, il y a eu plein de demandes au moment du Covid, donc ils ont augmenté à fond les unités de production et tout à coup tout le monde a fait ça, tous les acteurs du secteur ont fait ça et tout à coup il y a eu moins de demandes et là il y avait plein de production, donc ils se sont pris une tôle sur les prix. Oui. Mais ça a été, et donc ça a abîmé les marges, mais ça a été amplifié, c'est ça, je cherchais le mot mais j'avais le terme anglais, merci Julien. Ça a été amplifié par en fait des erreurs d'exécution assez extraordinaires, dont un truc fantastique, ils ont installé un nouveau système, donc de un ERP, un gros système de SAP pour augmenter les ressources de la boîte. Ils l'ont tellement mal implémenté qu'en fait ils ont eu des impacts gigantesques et qui ont coûté plusieurs centaines de millions de dollars sur leurs coûts en termes de gestion des stocks, de gestion des demandes, de gestion des clients, à un point où ils sont en procès actuellement avec deux fonds de pension américains pour l'implémentation, pour le coût que ça a coûté, oui, d'implémenter.
Ils ont fini par acheter, ils ont mal implémenté ce logiciel au point d'avoir acheté des patates dont ils n'avaient même pas besoin. Ils se trompaient sur les stocks. Enfin, voilà,
un truc formidable.
Alors, et concrètement, qu'est-ce qui change là maintenant ?
Alors, ce qui est pas mal, c'est quand vous avez une très belle boîte comme ça, gérée par des banquignols, en fait, surtout aux États-Unis, en Europe, c'est un peu moins le cas, ça finit par attirer des gens autour qui rentrent au capital, des activistes, et qui bougent. Donc, souvent, on en a un. Là, on en a trois. On en a trois, dont deux financiers et un industriel. On a Jana Capital, qui sont rentrés il y a à peu près un an, qui ont beaucoup secoué le board, qui ont ramené au board l'ancien patron de Nestlé US et l'ancien patron de Budweiser, donc des gens qui sont des bons pros du secteur. Ça n'a pas suffi, donc il y a Continental Grain, qui eux, est un acteur industriel dans les céréales, qui est venu, et alors eux sont moins activistes, mais sont quand même, c'est une de leurs premières positions pour que les choses avancent. Et puis il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle Jeff Smith, qui est le patron de Starboard, qui lui est rentré il y a trois mois, pour en mettre une petite couche supplémentaire. Donc ça commence à bouger. D'abord, le CEO qui a fait toute l'implémentation, enfin tout le plantage, lui, il est plus là, il est parti. Et maintenant, vous commencez à avoir des mesures d'implémentation qui rentrent en compte, vous commencez à avoir des coûts qui baissent, vous commencez à avoir ce problème de surcapacité qui était donc conjoncturel et pas structurel qui se calme. Donc ça devient en fait un très beau dossier, je pense.
Julien.
Vous aimez bien les entreprises en fait comme ça un peu value en fait dans lesquelles il y a des investisseurs activistes qui rentrent. Starbucks, si je dis pas de bêtises, ils avaient mis la pression sur Starbucks aussi, ou je me trompe?
Alors ils ont mis la pression sur Starbucks, et puis alors récemment ils ont mis la pression sur TripAdvisor, où en l'occurrence moi j'étais rentré avant, donc là je suis très content parce que c'est un peu le même genre de dossier. J'aimais bien TripAdvisor, j'aimais bien l'action et bien la valo, j'aimais pas le management. Et en fait, le jour où Starboard, donc j'attendais, et le jour où Starboard est rentré, on est rentré vers 10 dollars. Et là, ils ont fait un truc marrant. Starboard, ça va valoir 1 milliard, je pense, quand ils sont rentrés, un an. Et là, ils viennent de vendre juste la fourchette, 600 millions de dollars à American Express. Donc c'est ça que font les activistes en fait. C'est qu'à un moment ils arrivent, ils disent bon, ok, on arrête de déconner, ça on prend, on sort, ça on remet d'équerre, ça on bouge. Donc quelque part, quand vous avez de la valeur. Parce que si vous avez que de la valeur, que le prix et pas les gens aux manettes, ben vous pouvez rentrer dedans puis il se passera rien.
Et justement, eux, ils semblent vouloir quand même bien resserrer la vis parce qu'ils vous disent la marge d'EBITDA, elle est à 15, on veut la faire monter à 25.
Elle était à 24 en 2019. Donc ils veulent la remettre au niveau avant que les mecs se mettent avant qu'ils aient un, le problème conjoncturel sur trop de demandes, etc. Et deux, qu'ils se mettent à déconner complètement. C'est vrai que je lisais la dernière lettre de Starboard. Ils disent qu'en termes de les coûts opérationnels, ce qu'on appelle les SG&A, donc tous les coûts pour gérer la boîte dedans, ont énormément augmenté depuis 3-4 ans, alors que les chiffres d'affaires sont à peu près les mêmes. Donc, qui est bien l'exemple, le genre d'exemple où on se dit, OK, il y a un moment, c'est pas normal qu'il vous fasse deux fois plus d'argent pour gérer le même genre de business qu'il y a 3-4 ans.
Et vous voyez un rebond venir, donc, sur cette valeur, c'est quoi les étapes d'ici?
Alors, sans prendre les 25%, parce qu'on essaie toujours bien d'être un peu conservateur, si ça remonte à 20, et parce qu'il y a deux effets qui se coulent. Un, si les marges remontent, les EBITDA remontent, et deux, le multiple qui est tout en bas aujourd'hui remontera aussi. Donc, vous avez un kicker sur les marges, un kicker sur les EBITDA. Si vous faites le total, vous arriviez à une valeur d'entreprise, enfin je vous la fais courte, en stock, on doit être conservativement à 80 dollars, c'est-à-dire 70% à peu près au-dessus du cours d'aujourd'hui.
Bon, cela dit, on sait comment ça se passe aussi, ce genre de raid et ce genre d'opération.
Ça y est, je savais qu'il allait dire un truc critique.
Mais non, mais il y a des aspects techniques, il y a des ventes à découvert, il y a des appels de marge, il y a des effets de levier, il y a un certain nombre de facteurs techniques qui peuvent se déclencher.
Alors, vous avez complètement raison de souligner le point, surtout sur les stocks US où il y a le levier, il y a les shorts, il y a les marchés d'options qui sont très importants. Sur celle-là, en l'occurrence, c'est relativement calme. Donc, il y a moins de chances de se faire secouer. Et je pense que donc normalement il y a moins ces risques là. Voilà, c'est pas le cas du tout sur toutes les stocks US, mais sur celle-là, ouais.
Mais justement, enfin, excusez-moi, bon, pour moi là, le fait qu'il y ait beaucoup de shorts au capital, normalement c'est plutôt une bonne chose, parce que si Starboard réussit à faire, normalement vous avez un short squeeze. Et là, vous pouvez avoir des gains assez impressionnants.
Alors, c'est complètement d'accord, mais il faut bien aimer le truc rock'n'roll et contrariant. D'accord. C'est-à-dire que dans l'autre sens, si ça sort un peu pas bien, les shorts, ils vont augmenter à fond la pression. Le problème des marchés d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui font le prix activement, parce qu'une énorme partie des flux sont passifs. Mmh. Donc en fait, et pour bien comprendre la construction des prix, en fait, vous avez des acheteurs ou des vendeurs à tel niveau, et puis tout à coup, si ça enfonce un niveau, en fait, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, trouver l'acheteur ou le vendeur supplémentaire, il est beaucoup plus loin. Donc, malgré tout, en termes de taille dans vos positions et dans vos portefeuilles, il faut se dire, OK, quand c'est un marché comme ça, il y a beaucoup de shorts, ma position, elle est plus risquée. Le risque, il peut être à la hausse, ça peut être plus agressif, mais quelque part, j'ai un ressort plus comprimé, et donc j'ai plus d'impact possible sur le prix. C'est pour ça que parfois, on voit des boîtes qui publient avec pas un écart gigantesque, pas un résultat qui déçoit énormément, etc. Et tout à coup, l'action fait moins 25. C'est plus pour des mécanismes, et on en reviendra plus tard sur les marchés dans leur ensemble aujourd'hui, c'est plus pour des mécanismes de flux et de positionnement que de fondamentaux de la boîte elle-même.
Oui. Donc cette valeur, spécialiste, fabricant de producteurs de frites surgelées, notamment celles qu'utilise McDonald's, mais aussi des gaufres, hein, ils font plein de choses. Eh bien, ce titre, vous y croyez, on va rappeler son nom, Lamb Weston.
Voilà. C'est bon, ça. Il y a quatre acteurs aux États-Unis sur la patate surgelée. À quatre acteurs, ils contrôlent 95% du marché.
Oui. Ah, ils sont quatre quand même, c'est pas rien.
Mais il doit y en avoir qu'un de côté, je pense.
Ah, d'accord. Bon, alors on va regarder ce que vous en pensez aussi.
Et Lamb Weston est le premier.
Vous mettre à contribution, vous tous qui nous suivez, qui nous regardez, parce que cette famille BFM Bourse se poursuit. Avec Charles, si vous voulez bien rester quelques instants, Charles.
Toujours avec plaisir.
Allez, Factor X d'ailleurs aussi. On regarde ce que publient nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. On vous challenge. Et là, Julien, ce post de The Kobayashi Letter qu'on a choisi, la rédaction de BFM Bourse, de mettre en avant aujourd'hui The Kobayashi Letter qui insiste sur les intérêts de la dette aux États-Unis. On est en train d'enchaîner les années où les intérêts de la dette, le coût des intérêts de la dette augmente au point de surpasser celui des dépenses dans la défense. Ça fait 3 années de suite qu'on paye plus pour rembourser les intérêts de la dette aux États-Unis que pour la défense.
C'est vous qui l'avez trouvé ce poste, Guillaume. En l'occurrence, on parlait de piqûre de rappel avant, c'en est une autre. C'est quelque chose qui est un peu passé à l'as, hein, si vous voulez, l'alourdissement de la dette sous Trump, et qui pourtant est quand même conséquent. Hein. Je veux dire, on l'a oublié, mais le OBB, hein, le One Big Beautiful Bill, donc la grande loi budgétaire trumpienne de 2025, c'était un alourdissement conséquent de la dette. En fait, Donald Trump, il continue en fait de faire ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Pour le coup, c'est pas lui qui a marqué une rupture nette là-dessus, c'est-à-dire emprunter comme si les États-Unis avaient crédit illimité.
Et en accélérant quand même. Hein.
En accélérant, oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais comme on l'a souvent dit, les États-Unis, de par le fait qu'ils ont le dollar, ont effectivement, disons, beaucoup plus de marge de manœuvre que les autres pays. Sauf que les droits de douane l'année dernière l'ont montré. Les bonds vigilants, ils existent, même pour les États-Unis. Et là, on n'est pas encore sur ces problématiques, mais lorsque la question peut-être des midterms, lorsque la question d'autres sujets politiques plus internes aux États-Unis reviendront sur la scène, il n'est pas impossible que ces bons vigilants, ils se disent, tiens, là, on a flingué la tech, parce qu'ils sont arrivés sur la tech il n'y a pas très longtemps, avec Oracle notamment, l'année dernière. La tech, on s'est bien amusé, on risque de revenir sur la dette d'État, y compris la dette américaine.
Charles, là-dessus, c'est 3 ans de suite que le service de la dette aux États-Unis coûte plus cher que les dépenses pour la défense. C'est un record, hein, cette série-là, en 46 ans.
Oui, je suis d'accord. On a tous vu ces niveaux monter pendant des années. Le problème, c'est que si vous lisez aujourd'hui la presse financière, plus personne ne parle de fondamentaux macro nulle part. J'ai vu passer un truc aujourd'hui où quelqu'un disait qu'en fait, un journaliste de Bloomberg disait en fait le marché action est devenu tellement important dans la fortune des Américains qu'à la prochaine baisse du marché, la Fed va intervenir et acheter directement des equity, c'est-à-dire directement des actions pour soutenir le marché. C'est-à-dire qu'on est dans un système où finalement les gens finissent par accepter que ça ne baisse jamais, enfin c'est-à-dire que l'impression d'argent et de l'injection de liquidité soit un truc qui est devenu plus du tout exceptionnel en cas de crise, mais un truc légitime, perpétuel et...
Mais en fait, vous semblez dire, Charles, que le market américain est devenu too big to fail.
C'est ça. C'était exactement ce que disait l'article.
Voilà. Bon, on en reparle dans un instant aussi. On va rentrer dans la dernière demi-heure de cette séance avec Charles qui va rester, ainsi que Raphaël Thuin pour Tikeo qui va nous rejoindre. Merci à Julien Marion.
À la semaine prochaine, Guillaume.
À la semaine prochaine, Julien, avec plaisir. Cet article aussi sur Vivendi aujourd'hui, moins 11%. La Cour d'appel de Paris estime que Bolloré ne contrôle pas Vivendi et donc l'espoir d'une OPA s'effondre. Ce titre, il perd en ce moment 11,5% Vivendi. L'article bfmbourse.com est disponible. Merci. On se retrouve donc avec Antoine aussi dans un instant. Dernière ligne droite de cette séance. Malheureusement, on n'arrive pas à limiter les dégâts avec la hausse du pétrole. Le CAC 40 recule de plus de 2% à l'instant, 8260 points. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.